Pop-Popienne, Pop-Popien et tous les autres aussi, bonjour. Vendredi, c'est Podcasty. Autrement dit, le jour où Pop-Pop-Pop se transforme en Pop-Pop-Podcast, comme la chrysalide se transforme en papillon pour aller volter de fleur en fleur et explorer la prairie luxuriante où s'ébattent les podcasts. Podcast qui éclose à la vitesse de la lumière et où un guide chevronné s'impose pour distinguer le bon grain de l'ivresse, comme disent les amateurs de houblon. Ce guide, c'est Pop-Pop-Pop, bien sûr, ou plutôt Pop-Pop-Pop en Fridayware, soit Pop-Pop-Podcast. Et le Fridayware, ça tombe bien, puisqu'il va être question de rap aujourd'hui et qu'à ma connaissance, le costard cravate et le mocassin à gland ne sont pas les accessoires les plus répandus sur la dite scène rap. Notre invité Mehdi Maizi est pratiquement devenu une institution dans le milieu du rap. Il anime toutes les semaines le Code sur Apple Music où le gratin du rap défile devant son micro. Aujourd'hui, c'est lui qui défile, si je puis dire, étant donné qu'il est tout seul face à notre micro. Pop-Pop Podcast, épisode 14, c'est parti.
France Inter. Pop-Pop-Pop. Antoine de Caunes.
Et bonjour Mehdi Maizi.
Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir.
Bienvenue dans Pop-Pop Podcast. Merci. Avant toute chose, arrivez-vous à prononcer le nom de cette émission?
Très lentement, peut-être oui.
Allez-y.
Pop-Pop Podcast? Ah, j'ai pas réussi.
Un petit peu plus vite quand même.
Pop-Pop Podcast?
Voilà. Non, c'est trop dur pour moi. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah non, honnêtement, c'est pas mal. Mehdi Maizi, vous êtes journaliste, fan de rap et surtout journaliste de rap. Et vous êtes le créateur du podcast Le Code sur Apple Music. Un podcast qui, comme son nom ne l'indique pas, parle de rap.
Absolument.
Mes informations sont bonnes.
Elles sont parfaites même.
Mais rien ne vous prédestinait à devenir journaliste rap, car après une prépa HEC, vous avez entamé une carrière dans l'audit. Et si mes infos sont toujours bonnes, ce n'est pas là où le rap est le plus écouté, même si on écoute beaucoup de rap dans les audits, en tous les cas dans les films.
Tout à fait, non, c'est vrai, c'est comme ça que ça s'est passé. Et ouais, j'ai mis un peu de temps avant de trouver ma voix, je crois. Mm-hmm. Le rap m'animait déjà parce que c'est aussi une musique de ma génération. Ouais. C'était déjà une...
Vous êtes né en quelle année, Mehdi ?
Je suis en 86. Mm-hmm. Donc, quand je grandis, finalement, quand le rap commence déjà à être installé, il y a déjà des premiers tubes, des premiers gros albums de rap. Et c'est à l'adolescence, ça devient vite une obsession. Mais pour moi, c'était impossible de travailler dedans, en fait. À partir du moment où on n'était pas rappeur, qu'on n'avait pas de talent pour être artiste, être journaliste rap, pour moi, c'était complètement impossible. Donc, il m'a fallu un peu de temps avant de trouver mon chemin.
Et aujourd'hui, Mehdi Maizi, vous dites, avec une certaine fierté d'ailleurs, être payé pour écouter du rap. Aucun regret, donc, d'avoir laissé tomber l'audit pour l'auditeur.
Non. Aucun regret, absolument. Aucun.
Vous dites également, Mehdi, que pendant vos années d'adolescence et années de jeune adulte, vous n'avez pas fait grand-chose. Ou plutôt, vous avez, je vous cite, passé beaucoup de temps à ne rien faire à part écouter du rap.
Tout à fait.
Ce qui n'est pas ne rien faire, on est d'accord.
Ce qui pour moi était, c'est tout l'enjeu d'une discussion que j'ai vue lors d'un entretien à une école de commerce où on s'était un peu moqué de moi. On m'a dit, mais vous faites rien, faites quelque chose, genre concrétisez ça, jouez d'un instrument, je ne sais pas. Et moi, effectivement, j'avais un peu un rituel, aller acheter des CD, à lire le livret. Pour moi, c'est une vraie activité. Genre le week-end, je faisais ça, le soir, je faisais ça. Et je pense que ça m'a énormément construit et que ça créer ma culture, entre guillemets, rap aujourd'hui. Donc bien sûr, ces moments-là ont été très formateurs.
Et aujourd'hui, toutes ces heures et ces heures d'écoute de rap, eh bien, c'est devenu votre CV. C'est un message d'espoir pour nos jeunes éditeurs qui nous écoutent en ce moment, affalés dans leur canapé.
Absolument. Je pense que parfois, c'est important de ne rien faire. Parce qu'en fait, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose de rien faire. Quand on fait rien, en fait, on fait quelque chose, on peut lire, on peut... Généralement, les journées de glande, c'est pas vraiment des journées de glande, quoi. On fait toujours quelque chose. Même jouer aux jeux vidéo, vous pouvez demain être un streamer mondialement connu, en fait. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est important aussi cette culture, parfois, de l'oisiveté qui n'en est pas vraiment une, en fait.
Mais ça bouleverse toutes nos anciennes conceptions de la formation telle qu'on l'entendait jusqu'à présent.
Absolument.
Très bien. C'est un parcours qui rappelle celui d'Orelsan, un parcours ado assez light en activité que nous avons récemment découvert dans le doc de son frère Montre jamais ça à personne. Orelsan qui sera d'ailleurs l'invité de votre dernier podcast de 2021, vendredi prochain. Orelsan, Mehdi Maizi, même combat?
Alors, je sais pas, j'irai pas jusque là. Par contre, je pense qu'on est beaucoup à s'être reconnu dans son parcours là, dans son parcours de mec de province, moi ce qui était mon cas, ou de campagne.
Vous venez d'où?
Moi je viens de Picardie.
Donc j'ai la Picardie.
Ouais, voilà.
Donc j'ai grandi tout à l'heure avec Charline.
Bien sûr, mais je la connais, donc je sais qu'on a ça en commun. La Picardie, l'Oise, le Val d'Oise, je viens de là-bas et il n'y a pas eu beaucoup de rappeurs, à part Kamel dans cette ethnique quand même, c'est important de le dire. Mais en tout cas, de rappeurs qui ont brandi haut et fort les couleurs du 6-0, il n'y en a pas tant que ça. Donc c'est un peu un parcours d'auditeurs de province qui à un moment se passionnent pour ce truc qu'est le rap. Et ça devient une évidence et je trouve qu'on le voit bien dans le documentaire comment à un moment, pour Elsen, c'est une évidence alors qu'il n'est pas forcément le plus légitime selon lui, le plus talentueux non plus, mais il va le devenir. Et donc ouais, c'est un parcours inspirant. Voilà.
Eh bien, j'espère qu'il va inspirer nos auditeurs. Émilie, pour vous mettre dans l'ambiance avant de parler de votre podcast, justement, je vous propose d'écouter un extrait du dernier album du rappeur Kenney, et c'est « L'odeur de l'essence ».
Nostalgie leur fait miroiter la grandeur d'une France passée qu'ils ont fantasmée. L'incompréhension saisir ceux qui voient leur foi dénigrée sans qu'ils aient rien demandé. La peur les persuade que des étrangers vont venir dans leur salon pour les remplacer. Le désespoir leur faire prendre des risques pour survivre là où on les a tous entassés. La paranoïa leur faire croire qu'on peut plus sortir dans la rue sans être en danger. La panique les poussait à crier que la terre meurt et personne en a rien à branler. La méfiance les excitait, dire qu'on peut plus rien manger, qu'on n'a même plus le droit de penser. La haine les faire basculer dans les extrêmes à allumer l'incendie tout enflammé.
L'odeur de l'essence. L'odeur de l'essence.
Les jeux sont faits, tous nos leaders ont échoué. Ils seront détruits par la bête qu'ils ont créée. La confiance est morte en même temps que le respect. Qu'est-ce qui nous gouverne, la peur et l'anxiété? On s'auto-détruit, on cherche un ennemi. Certains disent c'est foutu, d'autres sont dans le déni. Les milliardaires lèguent à leurs enfants débiles. L'histoire appartient à ceux qui l'ont écrite. Plus personne écoute, tout le monde s'exprime. Personne change d'avis que des débats stériles. Tout le monde s'excite parce que tout le monde s'excite. Que des opinions tranchées, rien n'est jamais précis. Plus le temps de réfléchir, tyrannie des chiffres. Gamin de 12 ans dont les médias citent les tweets. L'intelligence fait moins vendre que la polémique. Battle Royale, c'est chacun pour sa petite équipe. Connard facho, connard hystérique. Tout est réact, tout est systémique. Dès qu'un connard fait quelque chose de mal quelque part, le monde entier devient susceptible. Les coupables sont d'anciennes victimes. Le cercle du mal jamais fini. Tout dégénère, tout est cyclique. Pas de solution, que des critiques. Tout le monde est sensible, tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Sensible, sensible, sensible. Tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Tout le monde buzz, tout le monde peut faire le petit train. Une discussion sur deux, c'est quelqu'un qui se plaint. Pendant que le reste du monde souffre pour qu'on vive bien. Les parents picolent, c'est les enfants qui trinquent. Accident de bagnole, violence conjugale. L'alcool est toujours à la racine du mal. Rien rempli, plus l'hôpital et le tribunal. On n'assume pas d'être alcoolique, c'est relou d'en dire du mal. On prend des mongols, leur donne des armes. Appelle sa justice, s'étonne des drames. Pris dans un vortex infernal. On soigne le mal par le mal et les médias s'en régalent. Que des faits divers, pour le renard pipère. Soit t'es pour ou soit t'es contre, tout est binaire. Les gratteurs de buzz flirtent avec les extrêmes. Depuis que les mongols sont devenus des experts. Entourés de mongols, l'empire mongol. On fait les mongols pour plaire aux mongols. On va tomber comme les mongols, comme les égyptiens, comme les romains, comme les mayas, comme les grecs. Faut qu'on reboot, faut qu'on reset. On croit plus rien, tout est deepfake. Face à l'inconnu dans le rejet. Mélange de peur, haine et tristesse. Nos contradictions, nos dilemmes. Corrompus, je suis né dans le système. Personne avance dans le même sens, tout est inerte. On voit qu'une seule forme de richesse. Prendre l'argent des gens, c'est voler, sauf quand c'est du business. Génération Z, parce que la dernière, ça se voit clairement qu'on n'a pas connu la guerre. Tous les vieux votent, ils vont choisir notre avenir. Mamie vote Marine, elle a 3 ans à vivre. Youtubeur fasciste, pseudo subversif. Voilà ce qu'on a quand on censure les artistes. Rien avant jamais, nombreuses radicalistes. En manque d'empire, ils se perdent dans la nostalgie d'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où... Putain, les moutons veulent juste un leader charismatique. Aucune empathie, tout est hiérarchique. L'école t'apprend seulement l'individualisme. On t'apprend comment faire de l'argent, pas des amis. Si le président remporte la moitié des voix, c'est que les deux tiers de la France en voulaient pas. Pas besoin de savoir c'est quoi le Sénat pour voir que les vieux riches font les lois. Personne n'aime les riches jusqu'à ce qu'ils deviennent. Ensuite ils planquent leur argent ou flippent de le perdre. Tellement taf de merde, fais semblant de le faire. Combien de jobs servent juste à satisfaire nos chefs. Nourris au jugement, nourris au cliché. Alors qu'on sait même pas se nourrir, on se bousille. On sait pas gérer nos émotions. Donc on les cache, c'est pas gérer nos relations. Donc on les gâche, s'assume parce qu'on est donc on est lâche. On se pardonne jamais dans un monde où rien s'efface. On se crache les uns sur les autres, on sait pas vivre ensemble. On se bat pour être à l'avant dans un avion qui va droit vers le crash.
L'odeur de l'essence, et c'est un morceau signé Aurel San. Bien entendu, prochain invité de notre invité à nous, Mehdi Maizi. Ça fait beaucoup d'invités. Et je pourrais vous dire, Mehdi, que nous avons déjà invité Aurel San avant de vous inviter. Et qu'avant que vous ne l'ayez invité à votre tour, mais Mais je perds un peu le fil, comme ça m'arrive parfois. Mehdi Maizi, je vous présente Charline Roux, qui, comme vous, a vécu en Picardie, ce qui explique en partie hein, cette passion pour le sportswear, avec des messages écrits dessus. Ben là, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux lire ? Allez vous faire... Bon, ok. Bonjour Charline.
Voir.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, je vous présente Mehdi.
Enchanté.
On est d'accord pour dire que Charline pèse autant dans le rap game Picard que Camini, l'auteur du morceau Marly Gaumont.
Plus.
Encore plus.
Non, mais on nous ramène toujours à Camini, Mehdi, Kamel, Alliance Ethnique.
Ouais, voilà,
on est simple et funky.
Exactement.
Donc.
Et c'est des morceaux qui vieillissent très bien, je trouve, ceux de Alliance Ethnique. J'aime beaucoup réécouter Alliance Ethnique, aujourd'hui. Donc plutôt Kamel que Camini, absolument.
Ok, on est simple et funky, nous. La citation du jour. Charline, malgré votre poids dans le rap game Picard, vous n'avez jamais été invité du Code, le podcast de Mehdi Maizi, mais vous l'avez écouté.
Le meilleur du rap francophone vu de l'intérieur. Fin de citation. Et autant vous dire qu'il n'y a pas croquerie sur le produit, parce que notre invité a un talent inouï pour faire parler les siens d'invités. Et comme ces interviews sont aussi diffusées sur YouTube, on peut voir que ces cascades sont effectuées sans filet. Vous n'avez ni notes, ni fiches, ni quoi que ce soit. Est-ce que c'est la Maizi's Touch, l'art de la conversation, justement ?
Je sais pas, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire, effectivement. Je crois que ça vient de ce qu'on disait un petit peu plus tôt avec Antoine, le fait d'avoir tellement écouté de rap et d'en écouter encore énormément aujourd'hui. Je prépare les interviews, mais l'idée, c'est vraiment de laisser place, effectivement, de se faire confiance, en fait, à nous, à sa connaissance, et à la capacité à mettre à l'aise l'artiste. Donc oui, il y a vraiment une envie de montrer une conversation, vraiment.
Ça m'intéresse quand même, Mehdi, parce que se faire confiance, c'est aussi faire confiance à l'autre.
Absolument.
Ça veut dire qu'il faut que vous soyez exactement sur la même longueur d'onde, pour partir comme ça.
Tout à fait, ce qui n'est pas... Mais c'est du freestyle qui est contrôlé quand même. Charline dit qu'il n'y a pas de filet, c'est vrai, mais il y a quand même un peu de montage parfois. Donc des hésitations, on peut gommer ces choses-là. Mais par contre, oui, c'est vrai que je peux me louper. Il y a des interviews qui, quand c'est un match, donc si l'adversaire est pas en forme, le match est pas très agréable à regarder. Et ça m'arrive aussi. Donc effectivement, c'est quand on veut mettre en place, en avant ces trucs de discussion, il faut que l'autre ait envie de discuter. Donc ça passe aussi parfois dans le choix. Parfois, je reçois des gens que je suis pas spécialement fan de la musique, mais je sais qu'on va pouvoir avoir une discussion qui, je l'espère, sera intéressante en tout cas.
Mais vous dites au montage gommer peut-être quelques hésitations, mais on ne vous voit jamais être pris à défaut ou au dépourvu. Vous avez toutes les rêves, vous déroulez tous les fils. Est-ce que vous avez une mémoire d'éléphant ou est-ce que vous bossez en amont comme un titan ?
Je pense que j'ai une bonne mémoire sélective. Donc quand il s'agit de rap ou de générique de film, je suis assez bon. Sur plein d'autres choses, je suis pas très bon. Et par contre, non, ce qui est vrai, c'est que je prépare mes interviews énormément, je ne sais pas, mais je les prépare beaucoup. Même s'il y a ce truc de genre j'arrive sans notes, je suis incapable de ne pas noter des choses pendant que j'écoute un album, pendant que je prépare une interview. Même après, je sais pas, même si je continue à faire ça pendant des décennies, je pense que j'aurai toujours ce trac-là et cette peur de mal faire, de décevoir. Vraiment, ça c'est important. Donc je suis obligé de préparer l'interview, bien sûr. Je peux pas arriver, même avec quelqu'un que j'ai interviewé 15 fois, je serais incapable d'arriver les mains dans les poches, vraiment.
Charline, quand vous dites vous avez toutes les refs, c'est une expression picarde.
Toutes les références.
Toutes les références, d'accord. Le Code.
Ce serait pas dit avec le même accent.
Ça serait quoi avec l'accent picarde ?
Le ref. Plus fermé.
Toutes les refs. Le Code, c'est à retrouver sur Apple Music et sur YouTube et ça sonne comme ça.
Sur Refé, tu cites Aznavour.
Yes.
Enfin, tu cites... On entend Aznavour, en fait. C'est pas un feat, mais on entend Aznavour. Pourquoi tu voulais le mettre sur ton album ?
Parce que je suis tombé sur l'interview. Et ce qu'il disait dans la phrase, en fait, chercher la définition, en fait, de chef. Et j'arrivais pas à trouver une bonne définition, en vrai, qui me correspondait. Ouais. Et en vrai, il a trouvé la bonne définition, d'un vrai chef. C'est un mec qui travaille, mais qui court pas après l'argent, forcément, t'as vu. Il court après le travail, plus après le succès dans son travail qu'après l'argent.
J'ai jamais fait quelque chose que je ne voulais pas faire. Je n'ai pas fait un théâtre que je n'aimais pas. Je n'ai pas travaillé pour l'argent, mais j'ai aimé gagner de l'argent. La différence, elle est là. C'est que je ne vais pas travailler pour de l'argent, mais je ne travaillerai pas pour rien.
Ici avec le rappeur Ninho et en bonus un extrait du titre Refé avec Aznavour dont il vous parle dans l'interview. Ça c'était pour la première émission et depuis d'autres rappeurs se sont succédés comme Soso Maness, Vald, Kalash Criminel, Fianso ou encore Attic. Comment choisissez-vous vos invités, Mehdi ?
C'est un mélange de coups de cœur par des artistes comme Lala, Ace ou Ichon, des gens que j'aime beaucoup et qui sont parfois moins exposés. Et aussi, il y a la volonté pour une émission comme Le Code d'être... de devenir une émission de référence. Donc, on est obligé aussi parfois d'avoir les têtes d'affiche du moment. Mmh. Et qui sont. Donc, voilà, c'est un mélange entre, je dirais, têtes d'affiche, les blockbusters du rap, mais aussi les véritables coups de cœur qu'on peut avoir. Donc, c'est une sorte d'équilibre qu'il faut réussir à trouver. Voilà.
Et alors, puisque vous parlez des têtes d'affiche, certaines sont notoirement réticentes quand il s'agit de se livrer en interview, soit pas envie, soit pas besoin, ouais, parce que c'est un facteur qui est non négligeable aussi. Chez vous, ils viennent quasiment tous. C'est quoi votre secret pour les faire plier? Je dis ça pour qu'on en profite. Hein.
Non, mais je crois qu'en fait, c'est le fait d'être là depuis quelques années, mine de rien. Mm-hmm. Pas si longtemps que ça, mais depuis 6-7 ans, d'être assez présent.
Oui, et vous, avoir... vous n'êtes pas là par opportunisme.
Non, parce que encore une fois, comme je le disais, moi, je pense, enfin, j'étais là, je suis arrivé, je crois, au moment où ça a commencé à vraiment bien marcher pour le rap, donc j'ai bénéficié de ça, mais pas profité, en tout cas, pas de manière intentionnelle. Et du coup, le fait d'être là depuis longtemps, de les avoir déjà pratiqués en interview, fait qu'ils savent aussi que c'est quelque chose qu'on peut me reprocher, mais moi, je suis pas dans la, j'interviewe pas d'hommes politiques, donc je trouve qu'ils, pour moi, ils ne me doivent rien, les artistes. Mmh. Donc je suis là, et l'idée, c'est vraiment de les mettre à l'aise et de leur permettre de raconter leur histoire. Ils savent qu'ils vont pas se faire piéger. Et je pense que c'est aussi, et qu'on va parler de rap, vraiment. Moi, c'est ça. Moi, quand là j'ai eu Orelsan, on a parlé de trucs relativement pointus, de choses dont il va pas forcément parler quand il va aller à C'est à vous. Et c'est ça ma promesse.
Comme quoi, par exemple?
Je sais pas, par exemple, de Kena, qui est un artiste qui était produit par les Neptunes, dont on a un peu oublié. Pour moi, quand j'entends Bébé Bois,
c'est Goodbye to Love.
Exactement. Pointu, je m'entends, mais disons que c'est pas forcément une discussion qu'il va avoir en, en prime time à la télévision. Mmh. Et ça, c'est un peu la promesse, c'est de, on va parler de musique. Quand on, moi, c'est ce que j'aime faire vraiment. J'adore ces discussions et je crois que les artistes aussi, ils n'ont pas tant l'occasion que ça d'en avoir. Au final, il n'y a pas tant d'endroits que ça où on peut parler longtemps de musique. Mm-hmm. Vraiment, on peut. Il y a des endroits de promo où on reçoit des artistes, mais parler de musique, c'est toujours un peu compliqué en média. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire. Et je crois que voilà, ils savent que on va parler de ça et pas d'autre chose.
Et comme le dit Charline, vous avez toutes les refs.
Tout à fait.
Vous dites que certains vous trouvent trop bienveillant dans vos interviews. Où pensez-vous vous situer sur une échelle qui irait de Stéphane Bern à Élise Lucet?
Alors, je suis, je sais pas, au milieu, je sais pas, à demi-zo, un truc comme ça. Non mais c'est marrant. Il y a, je me souviens de, il y avait qu'à un moment quelque chose sur une chaîne que vous connaissez bien, Canal+, et on a le droit de le dire, très bien.
Ça y est, c'est fait.
Et ça parlait de Michel Denisot, et Ariane Massenet disait, la force de Denisot, et ça qui peut être aussi son défaut, c'est qu'il est fan des artistes. Mmh. Et moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que je suis fan de rap. Je suis pas forcément fan de tous les artistes, mais je suis fan de ce truc-là qui est le rap. Et je suis admiratif aussi parce que c'est comme Aimé Jacquet dans Les Yeux dans les Bleus, quand il dit, vous me verrez jamais critiquer un attaquant, je suis incapable d'être attaquant. Et moi, je suis incapable d'être artiste. Donc, je suis très admiratif des gens qui arrivent à être artiste, en fait, à être artistique. Ouais. Donc, du coup, voilà où je me situe. Je crois, je suis clairement plus Stéphane qu'Élise, hein, il faut bien le reconnaître. mais je suis à l'aise avec ça. Je suis à l'aise avec ça et c'est mon style, je crois.
Mais cette bienveillance-là, elle démontre aussi que, contrairement à l'idée bien trop souvent partagée, que ce soit du côté des intervieweurs ou des interviewés, le clash, un exercice quelque peu dévoyé au fil des années, bah, c'est pas une nécessité.
Non, pas du tout. Enfin, c'en est une si on veut faire du bruit très vite, et si on veut attirer un peu, voilà, un pâté de chaland, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, une interview un peu conflictuelle, elle fera peut-être plus de vues, ou elle attirera davantage qu'une interview qui est bienveillante, où les mecs sont là et parlent des prods des Neptunes dans les années 2003. Effectivement, c'est un peu moins excitant, mais je crois que ça reste plus.
J'avais la ref.
Ouais, la ref. N'est pas en Picardie, Antoine de Caux.
Je crois que ça reste, en tout cas. Moi, ça m'arrive maintenant, grâce à YouTube, parfois de réécouter des émissions, ou de regarder des émissions télé de 2002, 2003. Mmh. Et ce qui reste, en fait, c'est pas les clashs du moment. Ça, c'est pas atemporel, et du coup, c'est des trucs qui vieillissent très mal. Par contre, des vraies discussions, je pense que ça peut se regarder même des années après. Donc, ouais, c'est ce que j'essaie de faire.
Mehdi, vous dites qu'avec les réseaux sociaux et la multitude de plateformes, les fans de rap découvrent parfois des artistes avant vous.
C'est vrai.
Comment gérez-vous cette course contre la montre en or, hein, puisqu'il s'agit de celle de Kanye West?
Ouais. C'est parfois assez compliqué, mais disons que je pense qu'il faut faire le deuil de la prescription. Ouais. On n'est plus vraiment prescripteur aujourd'hui. Il y a très peu de médias qui sont prescripteurs. C'est très très compliqué, et dans tous les genres d'ailleurs, puisque Internet a tellement accéléré les choses. Donc
vous allez voir si on n'est pas prescripteur, nous. Vous allez voir après cette émission, on commence à monter en flèche.
Je le souhaite. Le code. Mais en tout cas, moi, je le suis pas vraiment. En tout cas, je me relativise beaucoup quand parfois les gens me disent oui. Enfin, je pense que c'est de moins en moins grâce aux médias et de plus en plus grâce aux gens qui eux-mêmes se font leur culture. Donc notre rôle, il est ailleurs. Moi, mon rôle, il est plutôt de raconter quelque chose, d'essayer de décrypter un artiste, mais moins de le faire découvrir. Ça m'arrive encore, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de faire découvrir des gens aux gens. Ouais. Ils sont tellement en avant, ils ont tellement toutes les informations que on est un peu en retard souvent.
Parce que précisons que vous n'êtes pas qu'animateur, intervieweur pour votre média, vous êtes aussi curateur. À vous donc la mission, entre autres, de défricher, de programmer. De toutes ces activités, quelle est la plus chronophage ?
En fait, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que tout est lié pour moi. C'est tout, tout part de... Je dois tout écouter, en fait. Mmh. Donc c'est ça qui prend le plus de temps. Ma mission, c'est vraiment de tout écouter. En rap, en tout cas. Et du coup, en fait, après, de là, va découler des playlists, va découler des interviews, va découler des podcasts. Donc, en fait, j'ai l'impression que je fais qu'une seule chose, en fait. C'est écouter de la musique toute la journée et qu'après, je remplis des cases, quoi. Mais tout part, finalement, de cette tâche-là.
Nous discutons aujourd'hui avec notre invité Mehdi Maizi de son podcast Le Code qui est diffusé sur Apple Music et ça c'est toutes les semaines, chaque vendredi, hein, c'est ça ?
Tout à fait.
Bien. Nous sommes aussi vendredi et vous écoutez Pop-Up Podcast. Charline Roux ici présente passe tous les podcasts du monde, enfin de France, à la moulinette pour nous conseiller les meilleurs. Ça s'appelle le Popcast. Jingle.
Le Popcast.
Le Popcast.
Il est magnifique ce jingle, mais ça donnerait quoi avec un peu d'autotune ?
Le podcast.
Ouais. Je vois pas de grosse différence. Préfère l'original. Ouais,
okay. Hein. D'accord.
Et on démarre avec un podcast qui défend l'idée, je cite, qu'on peut être spécialiste de rien et s'intéresser à tout. Toutes les deux semaines, Culture 2000, c'est le titre, s'intéresse donc à des sujets historiques, géographiques, politiques, culturels, comme le prouve ce générique.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné immédiatement.
Depuis 2018, on y cause donc avec décontraction et en équipe de Frida Kahlo, de football, des punks, de Cléopâtre, d'histoire du féminisme, de l'Afrique des Grands Lacs, des Gaulois, du Ricard, ou tout récemment de l'histoire du cinéma avec notre Renan Cro National, ou encore un épisode sur la Chine impériale en commençant par le Grand 1.
Alors on attaque donc une longue histoire de 40 siècles. Bon, on débat sur les 40 siècles, hein, c'est pas forcément ça. On imagine qu'il va se passer pas mal de choses, mais on peut quand même essayer de se raccrocher à quelque chose qui changera un petit peu moins que l'histoire, même si c'est lié. C'est la géographie de la Chine, on est où à peu près ?
On se situe à l'est de l'Asie, donc... ce qu'on appelle en fait ce qui va être appelé ensuite l'Extrême-Orient par rapport à l'Europe, donc on a et où on trouve plusieurs foyers de population qui sont très anciens pour une raison assez simple, c'est qu'on a finalement un territoire assez favorable à l'établissement de populations avec de nombreux fleuves, des climats variés et très favorables à l'agriculture, notamment au départ on pense au riz, mais le riz va arriver finalement plus tard, mais c'est d'abord la culture du blé et du millet au nord. Ouais. Et donc on va avoir des populations qui se sédentarisent très rapidement et qui ne vont
parce que c'est fertile.
Voilà, qui c'est fertile et puis qui vont pas trop souffrir de la famine, donc une population qui grossit vite et qui devient un des principaux foyers de peuplement au monde.
De quoi briller en société et se cultiver en toute décontraction, c'est un podcast Fréquence Moderne. À noter que la chouette petite équipe de Culture 2000 a publié un livre ludique et intelligent comme les jeunes Nathan, l'essentiel du 20e, le livre pour te faire aimer l'histoire.
Et les plus petits, ils pourront apprendre l'histoire aussi, puisqu'une toute nouvelle tournée des Odyssées podcast maison signée Laure Grand Besançon vient d'être mise en ligne, non ?
C'est pas pour moi. C'est vraiment pour les vrais enfants, Antoine. Ça suffit. Les enfants de 7 à 12 ans et leurs parents consentants vont encore pouvoir se plonger dans les aventures des grandes figures de l'histoire. Au menu de ces épisodes de Noël, Sitting Bull, le dernier indien libre des plaines, Lady Stanhope, une aventurière dans le désert du Liban, Frida Kahlo et un certain Molière dont je vous laisse identifier la voix.
C'est alors que... catastrophe ! Le prince de Conti les lâche ! Sans protecteur, que va-t-il arriver à la troupe de Molière ? Notre homme, heureusement, a plus d'un tour dans son sac. Il décide de faire un petit voyage. À peine de retour, il réunit ses camarades.
Mes amis, je reviens de Paris où il faisait un temps... Mais alors, un temps infect. Alors ça, franchement, on a beau dire Paris c'est beau, mais il pleut.
Allez, Molière, abrège, on n'en peut plus, là.
Bon. Comme je vous le disais, je rentre de Paris avec une très grande nouvelle. Nous avons un nouveau protecteur. Nous sommes désormais la troupe de Philippe d'Orléans, frère unique de Sa Majesté le Roi. Nous jouerons au théâtre du Petit Bourbon.
Oui, c'est Denis Podalydès de la Comédie Française qui incarne Molière dans les Odyssées. C'est donc à mettre dans toutes les oreilles et dans les plus brefs délais. Et c'est un podcast France Inter.
Et on termine cette sélection par un billet d'humeur sur les mauvais usages de la langue française.
Et autres tics de langage répandus dans les podcasts, à la radio ou à la télé. Le titre de ce programme au format court, c'est « Je donne ma langue ». On le doit à un certain Walter Proof. Et on s'attaque aujourd'hui à « Par contre ».
Il n'y a pas pour l'instant de projet de délocaliser à Mumbai la finale de la Coupe de la Ligue. Mais par contre, on peut imaginer tout à fait un trophée des champions en Inde.
Ah, alors ça, c'est un débat, hein. Ah, ah. Est-ce qu'on a le droit de dire « par contre » ? Oui, on t'a sans doute déjà dit ça, hein. On dit pas « par contre », on dit « en revanche ».
Les Parisiens du Paris FC se sont bien repris. En revanche, le Red Star a été battu 2-1 face au Gazélec Ajaccio.
Oui, mais pourquoi ? Et est-ce que c'est si vrai ? Bon, pour le savoir, on va remonter dans le temps. Ouais, t'as vu, je fais même les effets spéciaux, je te gâte. La première utilisation attestée de « par contre » remonte au XVIe siècle, sous la plume de Jean Calvin. Ouais, le Calvin théologien, hein, l'un des fondateurs du protestantisme. Et Calvin, il dit « par contre ». Voilà, et tout le monde s'en fout pendant à peu près 2 siècles. Et puis arrive Voltaire. Et Voltaire, c'était un chieur quand même, faut bien le dire. Voltaire, il dit comme ça « par contre, on peut l'utiliser dans le langage commercial si on veut, mais en littérature, c'est moche ».
Par contre, ne comptez pas sur moi pour tout spoiler. En revanche, si vous voulez la suite, je donne ma langue, c'est dispo sur toutes les applis.
Merci Charline. Bah du coup, on dit plus par contre en fait.
Bah en revanche, on dit plus du coup non plus.
Bien, Mehdi, on continue à parler de rap et de podcast dans la suite de Popa Podcast avec votre podcast rap, le code. Ce sera juste après un classique d'un invité que vous rêvez de recevoir, c'est Jay-Z avec Kanye West, Nigga in Paris.
First niggas gotta find me. What's 50 grand to a motherfucker like me? Can you please remind me? Ball so hard, this shit crazy. Y'all don't know that, don't shit phase. The Nets could go 0 for 82 when I look at you like this shit gravy. Ball so hard, this shit weird. We ain't even pro be here. Ball so hard since we here. It's only right that we be fair. Psycho, I'm libo to go Michael. Take your pick. Jackson, Tyson, Jordan, Game 6. Ball so hard, got a broke clock. Rollies that don't tick tock. All the Mars that's losing time, hitting behind all these big rocks. What's also hot? I'm shocked too. I'm supposed to be locked up too. You escape, but I escape. You be in Paris getting fucked up too. What's also hot? Let's get faded. Liberties for like 6 days. Gold bottles, soul models, spilling ace on my sick gays. Also hot? Bitch, behave. Just might let you meet gay. Shot towns, D-Rose, moving the next BK. Also hot? Motherfuckers wanna find me.
That shit crack. That shit crack. That shit crack.
Ball so hard, motherfuckers wanna find me.
That shit crack. That shit crack. That shit crack.
She said, yeah, can we get married at the mall? I said, look, you need to crawl for your ball. Come and meet me in the bathroom style. And show me why you deserve to have it all.
Ball so hard.
That shit crack.
That shit crack.
Ain't it, Jay?
Ball so hard.
What she order?
What she order?
Fish filet.
Ball so hard.
Yo, whip so cold.
Whip so cold.
This whole thing.
Ball so hard.
Like you ever be around motherfuckers like this again. Who's your girl? Grab her hand. Fuck that bitch, she don't wanna dance. She's my friends, but I'm in France. I'm just saying, Prince Williams ain't do it right if you ask me. Cause I was him, I would've
married Kate and Ashley.
Was Gucci my nigga? Was Louis my killer? Was drugs my dealer? What's that jacket, Margiela? Doctors say I'm the illest, cause I'm suffering from realness. Got my niggas in Paris, and they going gorillas, huh?
France Inter, Antoine Decaune, Popopop.
Hey Charline Roux, et non, ce n'est pas Popopop, c'est Popopop Podcast aujourd'hui, puisque nous sommes vendredi et nous recevons Mehdi Maizi pour parler de Le Code, son podcast sur Apple Music, où il recevait récemment Refait ça donne ça.
Est-ce que tu as l'impression que les gens ont été peut-être plus durs avec toi qu'avec d'autres et qui t'ont passé moins de choses?
Franchement, j'aime pas me positionner en victime. Le public n'est pas mon bourreau, il a le droit de penser ce qu'il veut de moi,
okay.
Mais il m'empêchera pas de croire en moi et d'avancer dans la vie. Et voilà, je fais du rap, mais j'aime le rap, mais avec beaucoup de détachement.
Et ça, c'est pas ta raison de vivre.
C'est pas ma raison de vivre, absolument pas.
Et aujourd'hui, le rap est la musique la plus écoutée de France, et même si certains politiques qui ressemblent étrangement à Mr. Burns dans Les Simpsons parlent de sous-culture, c'est une culture. Et on est même dans plein dans notre sujet, à savoir dans la pop culture. Comment l'avez-vous vu évoluer, ce rap, Mehdi, depuis que vous avez acheté votre premier album? C'était celui-ci.
Je veux une tasse payée, yeah, 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 yeah,
Vanessa, extrait de Première Consultation, l'album de Doc Gynéco, sorti en 96. Comment l'avez-vous donc vu évoluer ?
Bah, disons que j'ai... Je pense que c'est une histoire assez classique d'une culture de niche qui devient mainstream, en réalité, avec tout ce que ça comporte de bonnes et de mauvaises choses.
Ouais.
Mais aujourd'hui, pour moi, on est même à un moment un peu charnière, je crois, de la culture rap en France, où on est justement devenu une culture mainstream. Toutes les cultures mainstream, à un moment, il va falloir qu'il y ait une nouvelle contre-culture pour la rendre un peu excitante à nouveau, peu novatrice à nouveau. Et je crois que là, on a un peu trop dit ces dernières années, justement, qu'on avait gagné, qu'on était la musique numéro un. Qu'on est numéro un des charts, c'est bien. Mais une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a fait un peu 4 ans de mêmes albums qui se ressemblent, c'est un peu comme Hollywood en ce moment, quoi, où il y a que des Marvel. Et j'ai un peu l'impression que c'est un peu ça le rap français maintenant. Donc là, il va être question, je pense, de dynamiter un petit peu tout ça. C'est bien beau d'être numéro un, mais voilà, qu'est-ce qui va rester tout ça? Et je crois que là, on est à un moment un peu charnière.
Faut être challengé.
Exactement.
Vous établissez un parallèle entre rap et pop, parce que de nombreux rappeurs veulent devenir des pop stars, et qui dit pop star dit forcément discours un peu plus lisse.
Ouais.
Est-ce qu'on peut être rappeur et pop star sans perdre sa street cred, comme je le fais en ce moment même en disant street cred? Est-ce que c'est impossible?
Non, je crois que la street cred n'est plus vraiment une question dans le rap. Et encore une fois, c'est parce que le rap maintenant est devenu plus gros que le hip-hop, justement. Plus gros que ce qu'on entendait par rap au début. Donc aujourd'hui, on a un moment où tout le monde peut rapper. Tout le monde peut sortir un album. Et ça ne posera pas de problème, on le voit. Je veux dire, il y a énormément de youtubeurs aujourd'hui qui... Mr. V a sorti 2 albums. Les 2 sont platines. Et il est en collaboration avec énormément de rappeurs installés qui, eux, ont une street cred, etc. Ça ne pose aucun problème. Donc aujourd'hui, la notion de street crédibilité, elle est plus du tout présente dans le rap. C'est une bonne chose, dans le sens où c'est un genre qui s'est ouvert. Et parfois, on peut se dire que c'est une mauvaise chose parce que du coup, tout le monde prend le micro et du coup, il n'y a pas vraiment besoin d'être passionné par le rap pour en faire. Et puis le rap, à ce truc-là, c'est qu'il a l'air simple.
Ouais.
Il ne l'est pas, mais il a l'air simple.
Ouais.
Comme je crois que c'est le hip-hop au sens large, ça a l'air simple d'être DJ, ça a l'air simple de graffer, ça a l'air simple de... Et en fait, ça ne l'est pas. Et du coup, voilà, tout le monde en fait aujourd'hui. Et c'est un peu, on a même l'impression que c'est presque une case à cocher, pardon, quand on est un petit peu connu et qu'on a un peu d'influence. Mais je crois que c'est le sens de l'histoire.
Mais aussi une cache à causer, hein.
Et vous apprêtez vous-même, Antoine, d'ailleurs, à sortir un album.
À cacher ma cause.
Ouais, c'est le titre. C'est le titre. C'est pas encore tout à fait prêt, mais.
Je veux écouter ça.
Ceci étant dit, dans le rock, dans la pop, il y a des sous-genres dont les noms sont à peu près connus du grand public.
Ouais.
Alors que justement, dans les médias grand public, on dit rap, point barre, quelles que soient les nuances, et pourtant assez vaste, entre les genres. Est-ce que ça vous agace?
Non, ça m'agace pas parce que c'est de notre faute. C'est parce que je pense qu'avant de tirer à boulet rouge sur les médias mainstream, il faut que nous aussi on arrive à nommer les sous-genres rap. Et je suis entièrement d'accord avec vous, il y en a vraiment, ça existe depuis toujours. Et nous, les premiers, on les nomme pas, on dit rap. Alors que effectivement, bref, on a essayé un petit peu de trouver des genres pour le cloud rap, pour la trap, mais globalement, on a tendance un peu nous à tout mettre derrière le carcan rap. Donc on est un peu les premiers aussi fautifs de ça. Donc
ce qu'on fait pas pour le rock en l'occurrence.
Absolument.
Il y a metal comme il y a. Mais bon, maintenant ça y est, c'est passé dans le langage.
Mais je pense parce que la presse rock, elle est avec ses défauts, mais en tout cas, elle est plus expérimentée que la presse rap, donc elle a eu le temps de nommer les genres, voilà. Et nous, je crois qu'on a encore ce travail à faire. Vraiment, autant le rap est là depuis longtemps en France, autant les médias rap en tant que institution, entre guillemets, en tant que média installé, on est un peu au début de cette histoire-là. Donc, on a encore un vrai travail à faire. Tout à l'heure, on parlait de parfois être trop bienveillant. C'est un reproche qu'on peut faire quasiment à tous les médias rap. Donc, parce qu'on s'est un peu construit en opposition aux médias traditionnels qui étaient durs avec les rappeurs. Donc nous, on devait les soutenir. Maintenant, je crois que maintenant qu'on a gagné, comme je le disais entre guillemets, il est temps aussi d'apporter un peu de contradiction parfois. Donc c'est pour ça que je parlais de moments charnières pour le rap, mais aussi pour l'écosystème rap au sens large.
Après, il y a aussi la question du traitement du rap dans les médias, avec toujours beaucoup de poncifs, beaucoup de stéréotypes. Vous prenez par exemple l'exemple d'Aya Nakamura, qui n'est pas reçu dans les médias comme elle devrait l'être, ou de Booba, qui pour la plupart des médias est un mec qui s'est battu dans un aéroport.
Ouais. Bon,
on sent que c'est un sujet sensible pour vous. On ne touche pas au Duc, qui se bat dans les aéroports.
Non, on peut toucher à tout le monde. Par contre, c'est juste... il faut bien se rendre compte que aux États-Unis, Booba serait traité n'importe où comme une véritable légende, parce que c'est une légende dans le genre qu'il est. Aya Nakamura, aujourd'hui, ce qu'elle a accompli, son rayonnement à l'international, c'est incroyable. Mais nous, on préfère faire des blagues sur son nom de famille. C'est quand même lunaire, en réalité. Donc c'est juste, moi, ce truc de manque de respect vis-à-vis des artistes qui viennent globalement du genre rap qui me dérange. Et pas, c'était aussi le cas avec PNL à l'époque quand ils sont arrivés. Donc moi, je pense qu'on peut se moquer des rappeurs. Hein. On doit même le faire. Ouais. Mais par contre, on doit leur donner le respect qu'ils méritent, comme on, enfin, comme on respecte Vianney ou Kendji Girac, quoi. Ouais, c'est tout. Ouais.
Alors, puisque vous parlez de respect, il y a une chose étonnante. Vous dites que dans le rap, ce sont les jeunes qui font la loi. Le respect des aînés et la volonté de transmettre une culture n'est pas une évidence. Comment est-ce que vous l'expliquez?
Ouais, c'est vrai. Mais parce que c'est un genre de jeunes. C'est des jeunes qui, depuis toujours, ont fait la loi dans le rap. C'est globalement, c'est tous les nouveaux genres, les sous-genres de rap dont vous parliez, ils sont dictés parce qu'à un moment, une nouvelle génération, elle en a marre que d'écouter le boom-bap ou la trap. Ou donc, elle va arriver avec une nouvelle proposition. Et c'est la force du rap. Donc moi, je pourrais jamais me plaindre de ça, parce que si le rap est encore aussi vif, autant en vie, c'est parce qu'on a à chaque fois des nouvelles générations qui arrivent à quelque chose de nouveau et qui l'embrassent. Par contre, c'est vrai qu'il y a un travail de transmission qui est pas toujours facile à faire, mais c'est normal puisqu'on est un genre tourné vers la nouveauté. Un album sort le vendredi, le public est déjà là à attendre le vendredi suivant et savoir ce qui va sortir. Donc c'est aussi à nous, médias pour le coup, de mettre en place des formats qui permettent de transmettre justement, et je crois qu'on est en train d'arriver à le faire.
Mehdi Maizi, dans votre podcast Le Code sur Apple Music, vous rêvez d'avoir Jay-Z. Comment commenceriez-vous l'interview? Quelles questions?
Alors déjà, on l'appelle Jay-Z.
Jay-Z, Jay-Z. On pense au même.
Bon,
Jean-Z, par exemple. Quelle serait votre première question?
Honnêtement, je peux pas vous répondre là parce que je pense que ce serait l'interview que je préparais le plus dans toute ma vie. Donc, et je pense que la première question, elle est extrêmement importante avec Jay-Z. Donc je sais pas, mais je pense que je ferai un truc, j'essaierai de l'impressionner un peu, de sortir un truc vraiment du début de sa carrière pour montrer que je le connais vraiment bien et que je suis meilleur que les autres et que je suis plus légitime. Je sais pas si ça marcherait, mais je pense que j'essaierai de faire un truc comme
Et à l'inverse, quelle est la question à ne jamais poser à un rappeur?
Non, je pense que la question à ne jamais poser globalement en interview, c'est est-ce que tu peux te présenter? Je pense que c'est le truc le plus feignant possible.
Est-ce que c'est plus feignant que cet album? Ce serait pas celui de la maturité.
Non, mais ça, c'est
c'est
classique.
C'est classique.
Je suis d'accord. Mais voilà, je pense que demander à quelqu'un de se présenter est quelque chose de quand même assez feignant, quoi. Voilà.
Mais dis-moi, c'est bientôt Noël et ça tombe bien parce que le Père Noël est fan de rap. Ouais. C'est pour cette raison que vous avez sorti le Rap Jeu. C'est l'adaptation d'une autre de vos émissions en jeu de société.
Tout à fait.
Alors, Rap Jeu, c'est le meilleur jeu de rap au monde. Enfin, jusqu'à preuve du contraire. Ça, c'est ce que vous dites, hein.
Oui, tout à fait.
Pour l'émission, mais c'est la même chose pour le jeu de société, donc, j'imagine.
Exactement. Oui, tout à fait. C'est vraiment une déclinaison. L'idée, c'est de, on a essayé, en tout cas, les auteurs, de retranscrire un peu l'ambiance du format YouTube en jeu de société. Tout à fait.
Alors, ce qu'il y a à l'intérieur de ce jeu, c'est des questions, évidemment. Ouais. De trivia, mytho, par exemple. Le mytho, pas mytho.
Ouais, tout à fait.
J'en prends une au hasard. Tiens, celle-ci. Un des fils de Nicolas Sarkozy a tenté de s'imposer dans le rap français avec un label qui s'appelait Da Crème Chantilly.
Tout à fait.
Alors c'est vrai qu'il a essayé de s'imposer, mais je ne sais pas si c'était le nom du label. Si, Da Crème Chantilly.
Exactement, ouais.
C'est Pierre.
Non, c'est Pierre le nom, et c'est son artiste, c'est Mosé, absolument.
Ouais. Eh ben voilà, ça c'est pas mytho. Allez, une deuxième pour la route. Il existe un forum de discussion qui tente de prouver que Dr Dre est vraiment médecin.
Alors j'aimerais vraiment que ce soit pas une intox.
Eh ben c'est pas mytho.
C'est pas mytho.
Non, c'est génial.
C'est pas mytho. Et le commentaire, c'est que les Américains sont décidément fascinants.
On peut faire la même chose en France en même temps. Notre gynéco, peut-être.
Peut-être. C'est vrai.
Je vous laisse lancer ça, Charline.
Non, merci.
Rap Jeu, c'est édité chez Michel Lafon. Bien. Pop break dans ce numéro de Pop Podcast. C'est l'heure des Pop News. Des Pop News et spéciales, évidemment.
Mark Ronson n'est pas qu'un musicien et producteur talentueux, il est aussi un podcasteur à la tête d'un programme baptisé Uncovered pour le magazine musical The Fader. Il y parle musique avec ses pairs et son dernier invité n'est autre que Pharrell Williams, qui y parle de Neptunes, de Jay-Z, de Daft Punk et de manière plus inattendue de Lenny Kravitz.
He could play every instrument, you know, wrote all those songs, continues to write great songs, an amazing touring act. I mean, his live... Like going to a Lenny concert is a whole other like experience for people.
Pharrell Williams qui chante les louanges de Kravitz, qui joue de tous les instruments, qui compose, qui se livre sur scène comme personne, c'est à retrouver dans Uncovered par Mark Ronson sur le site de The Fader. On a déjà parlé du podcast What the Fuck with Marc Maron, dans lequel le comédien interviewe bon nombre d'artistes aussi. On y revient, puisque cette semaine, il s'entretient avec un acteur d'exception, probablement la plus belle voix du cinéma, Benedict Cumberbatch, actuellement sur Netflix, dans le film The Power of the Dog de Jane Campion. L'occasion pour les deux hommes de comparer évidemment les mérites des animaux domestiques, et Marc Maron n'est apparemment pas très chiant.
I really cannot handle the neediness of dogs. I resent them.
Okay, like, you're much more sophisticated than me. I'm so needy. I fucking love it when someone else needs me.
Really?
Yeah, of course.
I mean, I'm needy, but like it's you got to go through quite an obstacle course with me.
Benedict Cumberbatch aime qu'on soit en demande. Ça tombe bien. La suite est dans What the Fuck, Mark Maron, et c'est dispo sur toutes les plateformes.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine Decaune.
Oui, c'est moi.
Alors, c'est une tentative de Benedict Cumberbatch.
C'est pas une tentative, c'est la voix de Benedict Cumberbatch, simplement avec un peu de pression et quelques graves rajoutés en régie. C'est pas très difficile quand même.
Merci, Charline. Mehdi Maizi, dans la suite de Papa Podcast, nous parlerons de podcast et aussi de podcast. Ce sera juste après Morose, c'est un morceau signé du rappeur Damso.
Je suis tellement loin, c'est parti pour quelques heures. Près des couleuvres, sable en mouvement. Foncez, trop pressé de plus penser. Cerveau dansé, donc à débrancher. Faut te défoncer, plus rien de sensé. Sors de ma tête, de boucher, faut que je me teste. Que je l'ouvre, ok. Trop de tes questions brusques, beaucoup de pression. Muscles, trop de stress, pas d'émotion. Agression à chaque réflexion, back. Oppression à ta restriction, black. Tu veux pas de moi, tu veux pas de nous, mais tu peux pas le dire en face. Pas le temps. Je te demande un minimum de respect. Je calme mes nerfs, j'en vais sur une compo, j'calme mes nerfs, j'en vais tango. J'balance des bras sur une compo. Moro, moro, moro. Donne-moi ton père, que j't'appelle et ramène à l'hôtel comme si de rien n'était. Cherche l'amour dans la mort, t'arrêtes pas de causer du tort. Tu t'ouvres les veines mais encore, là t'ignores tous tes efforts. Tour à tour les deux bords, se fermer tu te fais des ports. S'il le faut tu le fais, il est faux tu le sais. Illico tu le fais, silicone dans la fesse, unicone dans la presse. Une michetot dans la tête, jamais seul tu t'en sortiras. Il reste une place dans le corps, yeah. J'écris sur tout ce que je pense, yeah. J'écris sur p*** et son coq, yeah. Mais sur ce que je risque d'apercevoir, yeah. J'aime quand je te perds, regarde d'avance. Quand c'est agir, chante ta fragrance. Tout c'est sévère, dans mon douce à la moniaque. T'aimes le bandit que je suis. T'es mal à vue quand tu me suis. Tu comptes sur mes économies. T'es ma p*** pour aujourd'hui. T'as pu, j'ai fait doubler la mise. Ben, bientôt j'abandonne le bis. C'est pas loin, j'prends vis et mer. J'calme mes nerfs, j'en vais tango. J'balance des bras sur une compo. J'calme mes nerfs, j'en vais tango. J'balance des bras sur une compo. Moro.
Damso, c'était le morceau Morose. Vous écoutez Papa Podcast, la seule émission de radio sur les podcasts que vous pouvez écouter à la radio et en podcast.
Oh, mais oui, mais c'est lui qui arrive en volant encore. Mais oui, c'est Cosmo Flash. Oh, bonjour Cosmo Flash.
Bonjour Antoine. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Voilà. Reprenez votre souffle. Ça va?
Oui, ça va, et vous?
Il n'est même pas essoufflé, c'est dingue. Bonjour, bonjour, bonjour. Allez, c'est à vous. Allez-y.
Ouais, bien, cette semaine, je vous ramène dans les années 80 et je vous parle de l'incroyable podcast Deep Cover.
Deep Cover?
Voilà, exactement. Alors, en français, on pourrait traduire plutôt par sous couverture. C'est un podcast en 9 parties, produit par le studio Pushkin Industries et surtout porté par le journaliste Jack Halpern. Lui, il est lauréat du prix Pulitzer en 2018. Excusez du peu.
Je vous en prie.
Voilà. Et l'histoire commence comme ça. Halpern reçoit d'un ami le manuscrit d'un livre complètement dingue, jamais édité, et apparemment basé sur l'histoire vraie d'un ancien agent du FBI.
The overarching plot was pure pulp. I mean, you could imagine the movie starring Steven Seagal and definitely straight to video. It tells the story of a newbie FBI agent named Ned from Detroit, who grows a Fu Manchu mustache, goes undercover in a violent outlaw biker gang, and infiltrates a secret syndicate that's smuggling hundreds of thousands of pounds of pot into the country. And all that leads, eventually, to the invasion of a foreign country.
Yeah. Alors, en fait, le manuscrit ressemble à une sorte de roman de gare, un mauvais roman de gare ou un mauvais film avec Steven Seagal.
Pop.
Il n'y a pas de mauvais film avec Steven Seagal.
C'est vrai, vous avez raison.
Ok, reprenez-vous.
Et ça raconte l'histoire d'un agent du FBI qui se fait pousser une moustache à la Fu Manchu et il évolue sous couverture dans un gang de bikers violents. Toujours sous couverture, il infiltre un gigantesque réseau de contrebande de marijuana qui fait rentrer des tonnes de drogue dans le pays et tout ça mène à l'invasion d'un pays étranger par les États-Unis. Mm-hmm. C'est sympa comme histoire, mais en bon journaliste, Jack Halpern doute un peu et décide de vérifier les faits rapportés parce que tout ça lui semble un peu trop tiré par les cheveux. Et il décide de tout reprendre depuis le début, et dès le premier épisode, il rencontre un certain Ned Timmons, et celui-ci lui raconte absolument tout.
Absolument tout ?
Exactement. Tout commence en 82, Ned Timmons est un agent du FBI, débutant à Détroit dans le Michigan, et après l'arrestation musclée dans un bar de bikers de Toby Henderson, un criminel notoire de la région, le FBI décide de l'utiliser pour infiltrer le milieu des bikers et tisser un réseau dans la pègre locale. Et c'est Ned, bien évidemment, qui va s'en charger. Et il se fait maintenant appeler Ed Thomas. Et il continue les coups de filet, les arrestations et découvre peu à peu un réseau tentaculaire de distribution de drogue installé aux États-Unis. Et en montant la filière, il fait la connaissance d'une source surnommée Shine qui possède des informations sur toute l'opération. Et ce Shine en question mène notre héros directement à l'origine de ces importations massives de marijuana.
In the coming years, law enforcement occasionally got wind of this guy who went by so many different names. Mr. Franklin, Frank William Brown, Stephen Sloan, and simply Skip. And this Skip character, he flickered on and off the radar of law enforcement like a UFO. And with time, he became kind of a legend. People called him the gentleman smuggler.
Donc voilà, un mec plutôt discret, pas comme les parrains de la mafia de l'époque, mais clairement pas un contrebandier ordinaire. Il s'appelle Stephen Kalish, ou Skip, ou le gentleman contrebandier. C'est le caïd du réseau, en fait, qu'on découvre. Et l'arrestation de ce personnage central dans l'histoire va permettre à l'enquête d'avancer sérieusement et au FBI de démanteler le réseau complètement. Mais surtout à ce moment-là, on apprend que Stephen Kalish a un ami très important.
Très important ?
Exactement. À ce moment-là, l'affaire prend des proportions complètement folles. Pendant ses infiltrations chez ce caïd, sous couverture, Ned Timmons entend souvent parler d'un général que les criminels appellent Face d'Ananas.
Face d'Ananas ?
Oui, ou Cara de Piña en espagnol.
The military leader of Panama, General Manuel Noriega, was indicted today on charges of drug smuggling and racketeering.
In all of U.S. history, this was only the second time that the Justice Department had indicted the head of a foreign nation. Only problem was, Noriega was still safely situated in Panama, very much in control.
Qu'est-ce qu'il dit ?
Eh bien, la petite enquête qui avait commencé avec une bagarre dans un bar à Détroit implique désormais le dictateur panaméen Manuel Noriega, aussi appelé Cara de Piña ou Face d'Ananas.
Face d'Ananas ?
Exactement. Et cette découverte va considérablement détériorer les relations diplomatiques entre les États-Unis et le Panama. Et le 20 décembre 1989, plus de 20 000 soldats américains envahissent le pays dans le cadre de l'opération Just Cause. Le but, appréhender le général, accusé par les États-Unis de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. Donc voilà, si l'histoire vous a convaincu, sachez que la forme est tout aussi originale. On entend tout au long du podcast la différence entre vérité et fiction. Les parties du manuscrit de Ned Timmons sont lues à haute voix par un acteur et sont juxtaposées à l'enquête de Jack Halpern qui passe au crible ce qui s'est réellement passé. C'est très habile et vraiment différent par rapport aux autres histoires du même type qu'on a pu voir même dans l'émission.
C'est des épisodes de combien de temps ?
C'est des épisodes d'environ 30 à 40 minutes. Donc c'est plutôt costaud. Mais vraiment, si vous êtes fan de Narcos ou Sons of Anarchy, que ça vous manque, ou que vous adorez les films des frères Coen, je pense que Deep Cover sera votre podcast de chevet pendant les vacances de Noël.
Waouh, ça c'est de la punchline. Merci Cosmo Flash.
C'est vendu en ce qui me concerne.
Il est en train de repartir, regardez. Comme un ballon d'hydrogène dans le ciel. Voilà, il est déjà parti. Ça y est, il est parti, vous pouvez arrêter la musique. Mehdi Maizi, je vous laisse quelques minutes pour trouver un podcast à nous conseiller. Le temps de trouver, je vous propose d'écouter un morceau du regretté Mac Miller, c'est Yay. Yeah.
When will we die? This life isn't fair. high. I live a lie, and one day we'll die. No one will care. Take me inside, I'll meet you there.
Mac Miller dans ce numéro de Pop Podcast consacré au rap en compagnie de Mehdi Maizi. Mehdi, vous ne le savez peut-être pas, mais ici nous avons une chronique qui s'appelle le podcast, c'est-à-dire le podcast que l'on conseille à un ami, en référence évidemment au coup de fil de un ami de Jean-Pierre Foucault. Jingle. Et votre recommandation, mon cher Mehdi, c'est Que la Nif de Nifa. Ambiance.
Ladies, I think it's time to switch roles.
Grunf Radio.
Que la Nif, l'actu rap, vu par Nifa.
Ok, ça c'est fait. On a posé les bases. Maintenant parlons peu, parlons bien. Pour les plus avertis d'entre vous, je suis une rookie, apprentie, wannabe journaliste rap. Donc pour cette première émission, je vais tout simplement me présenter à vous. Vous parler de la semaine que j'ai passée au programme. Un shaker de mes sorties rap préférées. Et mon petit suisse préféré, Slimka. Mon premier gars sûr de la semaine, puisque chaque semaine j'aurai un gars sûr ou une go sûr, parrain de mon émission, et comme ça la boucle sera bouclée, monsieur Mehdi Maizi.
Très bien.
Ah, le parrain, d'accord, je vois.
Non, mais vous êtes le parrain.
Effectivement, je la connais. Je la connais.
Ah oui, mais vous êtes le parrain.
Oui, tout à fait.
Bon, mais alors pourquoi ce choix, en dehors du fait que vous êtes le parrain?
Non, ça me permet de parler de deux choses que j'aime beaucoup, enfin deux institutions que j'aime beaucoup. Grunt, déjà, qui est un média rap monté par Jean Morel, un journaliste. Pas que rap, d'ailleurs musical, que j'aime beaucoup, que je trouve brillant. Et Grunt, c'est un média qui va avoir une dizaine d'années maintenant, qui a fait énormément de choses dans pour les artistes indépendants et qui a vraiment accompagné l'éclosion d'une scène. Aujourd'hui, ils sont extrêmement productifs. Ils ont lancé une web radio, donc Grunt Radio, et ils sortent énormément de podcasts, énormément d'émissions qui sont vraiment de très très bonne qualité. Et il y a un podcast hebdomadaire, tous les vendredis à 18h, qu'on peut écouter en direct ou ensuite en replay, qui est Que la Nif, de Nifa, qui est pour moi aujourd'hui honnêtement une des journalistes rap les plus brillantes, moi, je suis complètement fan d'elle, donc je suis pas très objectif. C'est juste génial, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, elle revient sur l'actualité hebdomadaire. Il y a énormément de découvertes, de prescriptions, peut-être. Peut-être qu'elle, elle est prescriptrice. Et puis il y a un ton, surtout, c'est très écrit. C'est pas juste elle qui parle et qui dit qu'elle aime bien aimer un morceau. Il y a toujours beaucoup de blagues, beaucoup d'humour, beaucoup de références, encore une fois, et une vraie prose, je crois. C'est quelqu'un qui a mis beaucoup de temps avant de lancer ça, mais en fait, elle a préparé ça pendant des années. Et du coup, là, elle est prête. elle est vraiment prête, tout est archi pro, archi carré, parce que elle devait le faire et qu'elle est faite pour ça. Donc je encourage tout le monde à écouter ça, vraiment.
À écouter donc la NIF.
Que la NIF, absolument.
Et ça se passe où?
Ça se passe sur toutes les applis de podcast.
Sur toutes les applis.
Exactement.
De podcast. Merci infiniment Mehdi Maizi.
Merci à vous.
Le code, c'est à découvrir ou à suivre sur Apple Podcast, et je rappelle que votre rap jeu est à mettre sous le sapin. Merci d'être venu.
Merci beaucoup, c'était un honneur, vraiment. Merci beaucoup à tout le monde.
Merci Charline.
Et Ville La Picardie, et merci aussi à toute l'équipe de Popopop et à Maxime Goudard qui a toutes les refs et qui était à la technique aujourd'hui. Lundi dans Popopop, Louis Garrel vient nous rendre visite. Mais avant lundi, rendez-vous partout sur les internets, 3615 Popopop.